Bonjour, shalom, assalam alaikum. Je suis bien rentré de Kara avec Michel Vitogbe Tomega et Jérôme Kodou Akucha. Et nous sommes au studio ce lundi du 24 avril pendant qu'il sonne 11h pour animer le club La Presse avec nos confrères et amis qui sont en train d'arriver. L'occasion pour nous encore de vous saluer, vous qui écoutez cette émission sur Canal FMA Lomé ses environs, mais également sur les antennes de nos médias partenaires qui font que cette émission est diffusée un peu partout, sinon dans tout le Togo, grâce à Radio Lumière depuis Anéro, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapaon. Donc nous couvrons tout le territoire du Togo et nous débordons en Afrique, dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Océanie, sur toutes les îles, grâce aux médias numériques, aux canaux numériques, également aux applications Facebook, YouTube. Vous avez également l'application de Canal FM. Eh bien, je le disais, cette émission est réalisée par Vitogbe et Jérôme qui reviennent directement de Kara. J'espère que vous êtes bien remis des fatigues. Et également nous rappeler que nous sommes dans la semaine de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Le programme circule déjà, nous allons le commenter. Cette semaine verra également le démarrage du recensement électoral en prévision des élections régionales et législatives que notre pays va connaître en 2023, nous allons en parler. Et puis, c'est cette semaine qui précède directement la célébration du 1er mai, la fête des travailleurs. Ce sera lundi prochain pour dire que des fêtes chrétiennes, musulmanes et laïques républicaines, nous sommes encore en plein dedans, n'est-ce pas, Uriel Kakpala et Nyang?
Bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Très heureux de retrouver ce joli plateau.
Oui, tu nous as manqué ces dernières semaines.
Ces dernières semaines, bon, voilà, pour des raisons que tout le monde pouvait connaître, j'ai été absent. Maintenant que nous y sommes, on va parler de tout sauf rien par rapport à ces fêtes qui vont tuer beaucoup de jours. On va espérer que cela ne porte pas préjudice à notre économie et à toutes nos affaires. Donc, préparons-nous après ces fêtes à faire des calculs parce que avoir pratiquement 4 jours successifs, ce n'est pas des moindres. Il faut faire attention aux dépenses.
Oui, si on fait une petite comptabilité, il y a quelques jours, c'était le lundi de Pâques qui était férié. La semaine dernière, c'était le jeudi, jour de l'Aïd el-Fitr, Ramadan pour les musulmans férié. Cette semaine, nous aurons jeudi 27 avril férié, le lundi prochain 1er mai férié. Je sens déjà les chefs d'entreprise qui n'ont pas toujours le sourire quand ces jours de travail sautent, mais on dira que ces jours permettent aux travailleurs de se reposer et de bien rebondir, n'est-ce pas, Arim Yaou Tchanyaou?
Absolument. D'abord, bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à tous les Togolais. Bonjour à mes jeunes frères ici en studio. C'est vrai que nous avons eu assez de repos et il faut que les gens
profitent. Et nous continuerons d'en avoir.
Oui, ouais, mais donc d'ici le mercredi, il faut que les gens mettent beaucoup de paquets dans le travail parce que après la fête, il faut toujours avoir la continuité de vie. Il faut toujours que les entreprises, l'État et que tout puisse marcher. Donc, comme nous sommes avertis, on a déjà passé 4 jours à la maison et cette semaine, on aura encore une journée, comme vous l'avez dit, et lundi également, nous serons au repos. Il faut que les gens mettent les bouchées doubles pour vraiment travailler, rattraper ce que nous avons perdu comme heure de travail, ce que nous avons perdu en termes de productivité. Je crois que c'est l'année qui a décidé ainsi. Vivement que les gens sachent quand même régler les pendules pour qu'on puisse s'en sortir, parce que rester sans travailler pendant des jours, pendant des heures, ça affecte un peu l'économie du pays.
Didier Komiasogba, bonjour.
Bonjour Sass et bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à mes aînés en studio, notamment le neveu. Bonjour à tous ceux qui
le neveu qui doit t'appeler Niné si vous retournez à Couvé.
Oui, Couvé, dont je reviens depuis il y a seulement quelques heures. Ah. Donc justement, on va là-bas, il m'appelle Niné quoi.
Merci beaucoup. Alors, c'est pas une colle, Didier. Si tu te demandais quelle est la devise du Togo.
Travail, liberté, patrie.
Travail, liberté, patrie. ceux qui ne le savent pas doivent l'apprendre et se le rappeler également. Se rappeler également les couleurs, les bandes, le carré et l'étoile qui composent le drapeau national. Si quelqu'un a oublié, peut demander encore c'est quoi la signification de telle bande, de telle couleur, pourquoi on a placé ceci et là-bas. Et puis ceux qui ne le sauraient pas encore, hein, l'hymne national, terre de nos aïeux, hein, qu'on va se rappeler à chanter en français, mais également en évé, en kabyé de la Kosa, en kabyé de la Bina, en Kotokoli, en Moba, en Akposo, tout ça pour montrer que nous sommes Togolais et fiers de l'être. Juste, hein, sacrifier à la tradition qui veut que nous démarrions effectivement le club de la presse par une pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est Carlos Castaneda qui nous apprend que l'ennemi du savoir n'est pas l'ignorance, mais la certitude. Encore une fois, l'ennemi du savoir n'est pas l'ignorance, mais la certitude. Eh bien, Kakpala, Komi et Ari Miaou, c'est parti avec ce premier chapitre que nous allons ouvrir. Chapitre auquel Komi Didier a assisté en direct au clap de fin le jeudi dernier à Accra. Il s'agit donc du forum des producteurs agricoles avec cette revue de presse. Quand Méga Info écrit Fopat 2023, le tour est fait. Pendant que le journal Ecofinance écrit, lui, modernisation du secteur agricole, voilà l'un des projets chers à Fort Niassingbé. Que Togo Matin écrit, lui, agriculture togolaise, l'engagement de Fort Niassingbé ne souffre d'aucune contradiction, notamment cet autre article, bientôt des centres de mécanisation agricole dans chaque région, et que Imagine Demain, c'est un journal aussi qui écrit, Fort Niassingbé qui, dans un communiqué final, invite les producteurs à s'approprier les réformes de mécanisation agricole. Comme Iro, bonjour.
Bonjour Sass.
Eh bien, tu as eu le double privilège d'assister en direct à Accra au clap de fin des Fopat. Et puis, juste après, le chef de l'État s'est déplacé à Chichao pour poser la première pierre du tout premier centre régional de mécanisation agricole. Tu as été témoin auditif et oculaire de ce double événement.
Oui, la région de la Accra et notamment la ville de Accra a été donc, l'attraction la semaine dernière avec ces événements qui ont eu lieu, notamment l'apothéose du forum national des producteurs togolais.
Agricole du Togo.
Vous avez vu justement cet engouement qu'il y a eu lieu, cette mobilisation auquel on a assisté, des délégations venues de toutes les préfectures, y compris de Lomé, de la région maritime également, qui ont participé donc à ce qui est appelé apothéose de ces FOPAT là. Et on a vu justement, comme d'habitude et comme depuis le début, ce dialogue-là direct entre le chef de l'État et les producteurs agricoles qui ont eu l'opportunité de lui présenter les doléances, souligner les manquements dans le secteur et lui présenter justement quelle était la vision de ces acteurs-là depuis la base. Et le chef de l'État, dans ses réponses, a également dit clairement quelle était justement la vision du gouvernement et ce que le gouvernement attendait. Et il a justement dit que le gouvernement a mis maintenant en place des mécanismes et des structures. Il va falloir justement que chacun des acteurs s'implique et profite de ce qu'il y a à faire. On a vu que les producteurs ont également remercié le chef de l'État pour l'initiative de ces forums qui leur permettent justement de dialoguer avec lui et de lui poser un certain nombre de doléances. On a vu des sujets ont été soulignés, la question de l'eau, la question de l'engrais, la question de plusieurs, la question de la mécanisation justement. Et comme par, on ne pas dit surprise, mais quelques minutes seulement après la clôture du faux pat, enfin, ou des faux pat, puisque c'était l'apothéose de toutes ces éditions, on a vu que le chef de l'État s'est déplacé donc pour quelques kilomètres de Kara à Tichao là-bas pour l'inauguration, donc enfin la pose de la première pierre de ce premier centre de régional de mécanisation agricole. De ce premier centre là, on a appris que ça va être, ça reste un centre pilote qui va voir à sa succession d'autres centres dans toutes les régions du Togo, et ce qui répondra justement à ce manque de à ce problème de mécanisation qu'on a toujours souligné et que les acteurs agricoles dont mon aîné ici en fait partie ont souligné. Et on a vu d'ailleurs l'engouement des producteurs autour de ce projet là qui commence déjà par solliciter la nécessité, enfin la possibilité de louer un certain nombre de machines agricoles, tout ça autour de cela. Donc ça reste un projet innovant. C'est vrai que si vous êtes au loin, vous ne maîtrisez pas un certain nombre de choses. On a vu de près quel a été l'engouement et quel a été l'implication, l'espoir des producteurs agricoles dans un certain nombre de projets qui se mettent en place. Et donc de toute façon, cette apothéose a été réussie, et surtout le centre qui est en train de
mettre
en place.
Merci, comme Didier, bien le centre pilote du centre régional de mécanisation agricole pour lequel le chef de l'État a posé la première pierre à Tichao, le projet qui va être exécuté par l'entreprise BKG Distribution. Nous en avons parlé au cours de l'émission le jeudi dernier. Pour l'essentiel, ces centres régionaux vont louer, vont faire des locations, ventes de machines agricoles aux paysans, vont mettre à disposition également des semences, mais également vont former les jeunes du milieu pour la maintenance. Au-delà de ces centres régionaux, à Rémiaou, à Karaï, c'était encore agi. Au-delà des discours, des besoins, des défis de l'agriculture togolaise en termes d'amélioration du rendement, d'augmentation de la production, mais également de trouver des moyens de la mécanisation, de la maîtrise de l'eau, des intrants, de meilleures semences, mais également penser à mieux conserver nos produits agricoles, à passer même à une première transformation pour donner plus de value à notre agriculture.
Oui, d'abord, accepter que je puisse, à partir de ce micro, féliciter le chef de l'État, féliciter également le gouvernement et surtout le ministère de l'Agriculture, et qui, à l'apothéose de Sephora, est en train, ou sont en train de nous prouver qu'on est en train de faire les choses aujourd'hui autrement. Mais au-delà, comme vous venez de le dire, il y a eu le beau discours, il y a eu des doléances, il y a eu des engagements qui ont été pris de part et d'autre également, où on donne la volonté de faire effectivement ce qui est préoccupation des acteurs de l'agriculture. Je voudrais bien souhaiter que tout ce qui a été dit, que ce soit dans les savanes, que ce soit à la région maritime des plateaux, au niveau de la région centrale, et qui ont été à l'apothéose de Kara, que tout ce qui a été dit, qu'on essaye effectivement de joindre, puisque quelque part, on a senti que la parole est en train d'accompagner, les actes accompagnaient déjà la parole, puisque au même moment, par exemple à Kara, quand on parlait de la mécanisation de l'agriculture, on est allé en même temps poser une pierre, première pierre. Et quand on parlait d'autres actions que les paysans ou les Togolais attendent, on est en train de donner des solutions. Mais mon souhait le plus absolu, et d'ailleurs c'est celui de tous les Togolais, c'est que tout ce qui a été dit dans cette innovation qui est les faux pattes que nous avons connues, il faut que les gens agissent effectivement. Il faut que tout ce qui doit contribuer à changer le visage de notre agriculture, que cela soit fait. Il ne s'agit pas que les beaux discours restent et que les gens, après avoir acclamé, qu'on dise que bon voilà, le chef de l'État est venu en personne, voilà ce qu'il nous a dit, et que chacun aille dormir et ne pas prendre la main à ce que le chef de l'État a dit. J'ai toujours coutume de dire que les paroles d'un chef d'État, c'est comme les paroles de Dieu pour l'univers. et pour le pays concerné, la parole que le chef de l'État donne, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est le premier de tous les citoyens. À partir du moment où le président lui-même a pris sur lui l'engagement et qu'il a effectivement respecté et qu'il est allé en personne écouter et dire sa version, il faut que maintenant tous ceux qui sont autour de lui et qui se sentent concernés par ce qu'il donne comme parole, qu'il exécute pour que l'année prochaine, quand on veut parler, qu'on fasse un bilan, qu'on dise que cette année quelque chose de spécial a été fait, le président y était personnellement, voilà les retombées. C'est ce que les Togolais attendent et ma foi, je crois sincèrement que ce serait fait, puisque avoir tout ce qui s'est passé depuis la savane jusqu'à l'apothéose de Kara, on sent que l'engouement y est de la part des populations, des acteurs de l'agriculture, et on sent également que le gouvernement est en train de prouver qu'il gouverne autrement, effectivement.
Merci. Dans un langage beaucoup plus profane, on dirait que les paroles d'un chef d'État, c'est des instructions qui soulignent ces orientations. Et comme l'a dit Ari Miaou, on a fait le tour du Togo avec les forats d'Apaon, Tchévier, Atakpamé, Sokodé. On a terminé par Kara. Les engagements ont été partagés, des recommandations ici et là. Nous attendons les résultats dans quelques mois. Nous sommes déjà au début de la saison agricole au sud du Togo, bientôt au nord. Dans quelques mois, ou tout au plus dans 1-2 ans, il sera important de voir les fruits concrets de toutes ces rencontres que le chef de l'État a piloté lui-même dans toutes les régions du Togo. Et Uriel, un peu à côté avec son agenda très chargé à Kara, Fon Nyasingbe a tout de même trouvé le temps le jeudi dans l'après-midi d'aller lancer le projet Tinga, le projet d'installation des lampadaires solaires dans la Binan, pour dire qu'il y a les discours que le chef de l'État essaie de faire accompagner par des actes.
Non, permettez que je rectifie un peu, mais je voudrais m'exprimer sur la première question d'abord. Projet Tinga, un peu, c'est un projet couplé. Il y a l'installation de 50 000 panneaux solaires. Mm-hmm. Et le projet Tinga offert a commencé il y a plus d'un an dans la région de la Kara. Mm-hmm. Maintenant, par rapport au sujet du FOPAT, je précise que j'étais à Kara, bon, au nom de notre journal, et j'avais souhaité prendre part à un forum, ne serait-ce qu'à un forum, j'avais souhaité précisément prendre part à celui de Kara, puisque je pensais qu'après Dapaon, ça serait Kara, mais nous ne sommes pas dans les secrets de la présidence. Ça a été organisé après Dapaon, Tchévier, Atakpamé, Sokodé, nous voilà à Kara. Nous avons tenu à prendre part parce que c'est la région que nous maîtrisions mieux pour voir ce qui va se dire, ce qui va se planifier et ce qui sera exécuté. Nous, on est nés dans la Kara, on connaît les cataclysmes, on connaît comment le climat fonctionne, les terres pauvres, les terres riches, les moins riches, les moins pauvres, on les maîtrise parfaitement. On a souhaité prendre part pour connaître concrètement ce qui va se passer. Voilà, vous avez parlé des engagements, vous avez parlé de tout, vous avez salué voilà, les initiatives des uns et des autres. Mais je voudrais bien qu'on soit courageux parce que le chef de l'État aime la vérité. Il aime la vérité et il veut la vraie information. En tant que journaliste, c'est peut-être à travers nous que le chef de l'État aura la vraie information. Vous savez, à Kara, vous étiez en émission, j'étais dans autre chose. Il se peut que vous aviez posé des questions sur les projets en précédent. Qu'est-ce que ces projets ont donné? Vous savez, avant qu'une initiative ne prenne corps ainsi, ça veut dire que les gens sont allés faire un exposé devant le président de la République et l'ont convaincu et ils acceptent qu'on pilote. Voilà, on a piloté ces forats-là dans toutes les régions économiques. Allons-y à la phase de la pratique. C'est ça qui est très important. Nous voulons vraiment que les gens n'aillent pas faire des exposés pour démontrer tout ce qu'ils savent faire oralement et théoriquement pour convaincre le chef de l'État et après pour voir les actes. On ne les aura pas. Ce n'est pas 10, 15, 20 projets qui ont été déjà pilotés au niveau du ministère de l'Agriculture. Cette fois-ci, tout ce que les uns et les autres disent, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on soit courageux pour attirer l'attention de ceux-là vraiment qui agrée les projets. Est-ce que les gens vraiment vont s'engager à ce que tout ce que le chef de l'État a permis que ça se planifie dans le contexte de ces forats-là, est-ce que les gens vont s'engager à ce qu'on obtienne les résultats? Il faut vraiment que les autorités qui ont ce statut de contrôleur fassent des points réguliers, parce que c'est des prêts, des financements, c'est des coûts durs pour le contribuable togolais. Mais si ça ne va pas fonctionner, je pense que tous ces tours qu'on vient d'effectuer, vous avez vu, nous avons dit que le tour est fait. Oui. On a tourné dans toutes les régions économiques du Togo. N'oubliez pas que c'est de gros sous aussi. Maintenant, si les gens ne vont pas s'engager au travail pour l'autosuffisance alimentaire, pour la production suffisante, la transformation, la commercialisation, ça veut dire que tout ce qu'on vient de faire...
Autrement dit, après toutes ces rencontres-là, maintenant, nous entendons des résultats concrets. Ces résultats devront se mesurer en amélioration du rendement, en augmentation de nos productions agricoles, en des techniques pour mieux conserver les produits, notamment les tubercules, les céréales, les fruits et les légumes, et également procéder à une transformation pour que nos produits aient une plus grande plus-value. Didier?
Oui, tu te souviens de l'émission qu'on avait animée justement, car on avait soulevé ce sujet-là. Le chef de l'État a parlé, il a dit un certain nombre de choses, il a pris des engagements. Et tout à l'heure, au niveau dans ton intervention, tu disais que les paroles d'un chef d'État...
C'est des instructions pour souligner ces orientations dont il attend la mise en œuvre effective.
Oui, les paroles d'un chef d'État, c'est comme Dieu a promis, quoi. Donc, évidemment, les gens attendent que Dieu agisse. Et justement, les gens attendent. Maintenant, les anges, c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'Agriculture et l'équipe qu'il y a. Et justement, l'année prochaine, on va commencer par questionner justement la mise en œuvre de ces projets, de ces engagements que le chef de l'État a pris, des annonces du chef de l'État devant les producteurs agricoles. On a dit que dans la feuille de route gouvernementale, que l'agriculture est prévue pour être le moteur de croissance de l'économie. Et on a dit justement, tu le disais, en allant à Kara, à l'aller comme au retour, nous avons vu le long de la nationale numéro 1 ce foisonnement de mangue un peu partout. Ça repose véritablement l'épineuse question de la transformation agricole. Bien, c'est la saison de la mangue, justement. Il va y avoir d'autres produits qui vont sortir au fur et à mesure. Comment on fait pour les transformer? On a un début de solution pour la mécanisation, justement, la transformation ou en un temps. Et le chef de l'État a pris beaucoup d'engagements, a annoncé beaucoup de choses. Comme Uriel le dit, justement, il revient au ministère de l'Agriculture maintenant de démontrer et de prouver le contraire de tout ce que les gens pensent de lui en, justement, prenant les engagements pour faire honorer les paroles du chef de l'État. Ça va être le rendez-vous et ça va être le rendez-vous fatidique pour les prochains faux pattes. Donc justement, ce que Uriel dit et ce que nous disons, il n'y a pas trop de différence. C'est justement la balai maintenant.
C'est pour dire que Monsieur Antoine Lekpa Gbegbeni est attendu au carrefour du résultat de la matérialisation de tout ce que nous avons vu et entendu lors des forats. Pour terminer, Didier, un vieux constaté. Quand nous étions à Kara, c'est vrai qu'il y avait une grande foule qui était venue accueillir le chef de l'État. Sauf que le faux pas a fait des dégâts collatéraux à Kara. Tu te rappelles comment tout le palais des congrès était jonché de sachets plastiques, faits de les sachets dans lesquels les gens ont bu et mangé. Tout ça a inondé le palais des congrès. Nous sommes tous partis. Maintenant, il reviendra au préfet de la COSA et au maire de la ville de Kara. Pourquoi pas au directeur du palais des congrès de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais au-delà de tout ça, cela pose encore le problème de la gestion des sachets plastiques pour lesquels le Togo a pris un décret pour interdire la fabrication, l'importation, l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Mais ce que nous disons là, ça a été fait, ça a été vu devant le chef d'État, tout le gouvernement, que les sachets plastiques non biodégradables ont encore la vie belle.
Si vous permettez, sur ce plan, vous savez, aux environs de 15 heures, j'y étais. Mm-hmm. Et quand je vous avais joint, vous étiez de l'autre côté. Oui. Vous savez, ces sachets, je sais comment ça s'est fait au palais des congrès de Kara. Si vous étiez là, je ne sais pas, à mi-journée de vendredi, oui. puisque les choses étaient le samedi, vous n'y trouveriez rien.
Les lieux ont été rendus propres.
Oui, oui, tout à fait. Je connais comment ça fonctionne Merci. Là-bas. Il y a des équipes déjà préparées pour mettre
au balayer. Ouais. Sauf que là, maintenant, le problème, on aura balayé le palais des congrès, on aura enlevé les sachets plastiques, mais on en fait quoi, Didier?
On en fait quoi? C'est justement la grande question, et ça repose la nécessité de la mise en application de ce décret-là, justement, interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation, l'utilisation des sachets plastiques. Ça fait des années qu'on parle de ce décret qui a été pris autour de 2010 par là. Et jusque-là, le ministère de l'Environnement, on ne sait pas ce qui se fait en la matière, alors qu'on est à une époque où on nous parle du problème de changement climatique. Ça reste, vous savez, l'économie verte, ça reste aujourd'hui le sujet de toutes les grandes rencontres internationales où on débloque des milliards. Mais chez nous ici, on a anticipé, on avait vu de très loin que les sachets plastiques posent un véritable problème. Aujourd'hui à Lomé, il y a eu quelques pluies, vous avez vu la fréquence des inondations. Des inondations, les gens parlaient de problèmes de gestion d'eau, mais ce n'est pas une question de gestion d'eau, c'est de vraies inondations. Parce que depuis que ça a commencé, des gens ne trouvent plus où dormir, c'est très compliqué. Et la plupart de ces inondations-là sont causées dans certains quartiers par des sachets plastiques qui
empêchent l'eau de s'infiltrer dans le sol.
Voilà, l'eau de s'infiltrer dans le sol. Et donc, quand on ramasse, on balaye, on ramasse, où est-ce qu'on stocke ces sachets? Comment est-ce qu'on les recycle? Et tout ça, ça reste véritablement un vrai problème de l'environnement. Quand on va les incinérer, on a dit...
Effet gaz à effet de serre
qui va brûler la couche d'ozone, tout ça... Les conséquences sont dangereuses pour nous et il va falloir justement que le gouvernement prenne un peu de courage. On sait que les usines installées dans la zone franche paient de l'impôt derrière la fabrication de ces sachets-là, mais on ne va pas continuer à cause des impôts, à cause de ce qu'on gagne derrière, à détruire l'environnement.
Des exemples qui nous viennent des pays comme le Gabon ou comme le Rwanda où on a eu le courage de mettre en œuvre les mesures portant interdiction de fabrication, d'importation et d'utilisation.
Même ici, on connaît des acteurs qui font des sachets, qui fabriquent des sachets plastiques biodégradables. Il y en a qui sont de bonne foi.
C'est ceux-là qui faut
fabriquent
encourager.
Ça. C'est ceux-là oui. qu'il faut encourager et interdire les autres.
Non, bon, moi je voulais dire que quelque part, il y a une volonté de voir la chose et de ne rien dire. Vous savez, quand vous parlez du palais, c'était la même chose. J'étais à Sokoré, j'ai vu les mêmes choses sur le stade de Sokoré,
oui.
un peu partout. Et généralement, c'est quoi? C'est les sachets de Piawata.
Mmh.
Et Piawata, qui contrôle d'abord l'eau que nous buvons? Nous sommes sur un territoire où si aujourd'hui j'ai un appareil qui peut me permettre de faire des sachets et j'ai un forage, je fais de l'eau, je l'ensache et je la vends. Et tout le monde prend cette eau.
Je crois qu'il y a un service qui englobe le ministère de la Santé et de l'Agriculture quand même, qui inspecte les eaux en principe. Hein,
et je crois que
les eaux en circulation.
Je ne vais pas m'en prendre à un service ici, mais je sais que vous et moi, vous comprenez, tous les Togolais savent que ce ne sont pas toutes les eaux Piawata qui sont bonnes. Il y en a qui ont l'autorisation, qui ont la qualité. J'ai bien dit que si j'ai les moyens, je peux me cacher vers Adetikope quelque part, je peux me camoufler dans ma maison et je produis bonnement mon eau. Les tricycles viennent charger et livrent à qui veut les vendre. Qui contrôle ces eaux-là? Et c'est à partir de là que nous avons même le problème de sachets. Les sachets dont vous parlez, si vous avez la vidéo, vous avez le film, vous verrez que c'est les sachets d'eau. Et ces eaux-là, je demande d'abord... Pourquoi est-ce que s'il y a un service, pourquoi est-ce qu'on laisse en sachet ces eaux-là dans ces sacs qui, vraiment, malheureusement, ne sont pas biodégradables? Donc, ça veut dire que quelque part, les gens voient, se taisent parce que ça fait des affaires. Lui, il a dit que sûrement que les entreprises ou les sociétés-là sont déclarées, elles participent à l'essor de l'économie du pays. Mais est-ce que c'est une raison pour laquelle il faut se taire et créer des problèmes environnementaux? Et d'ailleurs sanitaire pour nous, parce que pour moi, je continue par dire que le contenu de ces sachets-là n'est pas forcément de la bonne qualité d'eau.
Sachets plastiques qui posent un problème d'environnement également, de santé publique. Il faut vraiment qu'on ait le courage. Si d'autres pays y arrivent, ce n'est pas le Togo qui ne le pourrait pas.
Oui.
Uriel, pour terminer avec ça.
Beaucoup de pays sont arrivés. Ils sont arrivés à trouver des solutions. Mais moi, je voulais parler en quelques secondes de l'eau minérale dont vous parlez. En réalité, c'est simple. C'est très simple. Si nous voulons, si les ministères en charge de cette eau, à savoir les ministères de l'Environnement, de la Santé, de l'Agriculture, etc., s'ils veulent que.
De l'eau et de l'hydraulique.
De l'eau et de. Voilà. Donc, si ces ministères-là veulent bien que la population consomme une eau potable, c'est très simple. On affiche partout la liste des sociétés agréées à la production d'eau minérale. Mmh, c'est tout. Si vous consultez cette liste, vous verrez là où n'est pas vous dirigez. C'est si simple que ça. Mais aujourd'hui, si vous demandez cette liste, vous ne la verrez jamais. C'est ce qui est dommage. Il faut qu'on ait cette liste des sociétés agréées à nous produire l'eau minérale et on s'y aventurera pour acheter.
Merci beaucoup pour cette interpellation au gouvernement à travers le ministère de la Santé, le ministère de l'Eau, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Mines. Que chacun fasse son travail pour nous mettre en sécurité, d'autant plus que dans quelques jours, ce sera le 63e anniversaire de notre pays, le Togo indépendant. Le programme défile déjà. Hier, il y a eu les premiers offices religieux. Et puis, dans la foulée, on annonce des inaugurations ici et là. Mais avant d'aller, je voudrais rappeler cet événement. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé le 24 avril 2006? C'est ce jour-là que le nouveau palais de la présidence de la République a été inauguré par Fornia Singbe en présence de M. Zhang Xicheng, qui était l'ambassadeur de la Chine au Togo en ce moment-là. Alors, le nouveau palais des congrès compte environ une quarantaine de bureaux, mais aussitôt après son inauguration, on s'est rendu compte que c'était.
Palais des congrès ou
palais de la présidence. Palais de la présidence. Voilà. Palais de la présidence, donc une quarantaine de bureaux, mais on s'est vite rendu compte que c'était insuffisant pour une présidence de la République. Alors, rapidement, on a érigé un bâtiment annexe. Et puis, 2016 à 2023, on a trouvé que le palais a besoin de réfection. Si vous passez là-bas maintenant, vous voyez que le nouveau palais inauguré en 2006 est en réfection, bien en restauration. C'est juste un rappel.
Arimiaou. Non, c'est réfection. Oui, mais vraiment, c'est souvenir, parce que moi, sincèrement, j'ignorais que c'était un 24 comme aujourd'hui que le palais a été inauguré. Mais franchement, de l'extérieur, quand vous voyez ce palais, vous êtes fiers d'être togolais, parce qu'il donne une configuration très intéressante. Et si vous l'aviez bien dit au début, on aurait pu délocaliser le club de la presse aujourd'hui depuis le palais.
Voilà. Point,
pour chanter. Ouais, si vous l'aviez dit très tôt, on aurait essayé. Et que c'est depuis le palais que les gens devraient nous écouter. C'est vrai que c'est en réflexion. Quand vous passez, tout est fermé. On est en train de refaire. Sûrement que c'est pour nous donner encore une très très belle configuration pour les jours à venir.
Alors justement, une question d'un auditeur, d'une auditrice. Si le nouveau palais de la présidence est en réflexion, alors que l'ancien n'a pas été aménagé, où est-ce que le Fort Nyasingwe travaille?
Attendez.
Oui.
Est-ce que c'est l'expression réflexion il faut employer? Parce que quand moi je passe, non, est-ce que c'est réhabilitation? Quand moi je passe au niveau de la. C'est une construction karma par une entreprise chinoise qui nous bloque la route là-bas.
Même sur la route,
ça se fait voir. C'est un nouveau bâtiment apparemment vraiment qui pousse difficilement peut-être à cause de sa taille, sa structure et tout. Moi, je pense que c'est une construction entière. Hein,
carrément. Parce que là, il faut dire les choses.
Oui, Didier.
On a vu déjà publié un papier sur les travaux là-bas.
Mais qui n'était pas profond, hein, Jalus. Hein.
Oui, bon, on parle de la présidence là, tu veux aller à quelle profondeur. Justement, en fait, ce dont il s'agit, ce que le ministère chinois des Affaires étrangères avait annoncé, c'est. Ils ont utilisé le terme de réhabilitation.
Réhabilitation
parce que on a constaté qu'il y a des problèmes de construction justement au niveau de ce palais. Bon, beaucoup de difficultés avec le bâtiment, le grand bâtiment central. Et donc, ils ont justement parlé de réhabilitation. Mais on a vu que tout à côté, il y a la construction d'un autre bâtiment. Mm-hmm. Je pense que c'est deux. Ça fait un double chantier. Et de l'autre côté aussi, à la plage, c'est carrément une réhabilitation parce que. Les travaux ne finissent jamais là-bas non plus. Donc, finalement,
le chef de l'État, il travaille où?
Enfin,
si
bon,
les deux palais sont en réfection, réhabilitation.
On peut imaginer facilement parce que les conseils des ministres s'organisent maintenant au niveau de l'OME 2, l'ancien l'OME 2 que vous connaissez tous. Moi, j'y étais pas, j'y ai jamais été.
Pourquoi tu dis que tout le monde connaît
je ne suis pas grand à l'époque. L'OME 2 que tout le monde connaît, où a été il y a
donc, l'OME 2 a repris du service.
L'OME 2 a repris
du service. En attendant que
c'est là que se déroulent les réunions de conseil des ministres. Et la plupart, donc, le chef de l'État travaille à partir de là-bas, selon les informations que nous avons.
Ok, revenons maintenant au programme de la commémoration du Togo indépendant. La apothéose sera le jeudi 27 avril prochain, mais déjà il y a les offices religieux. La présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchégan, avec le ministre d'État Paya de Wabukwesi et bien d'autres officiels, étaient à la messe à Klikame hier. D'autres offices vont suivre. Il y a également aujourd'hui même, le chef de l'État doit poser la première pierre pour les travaux de construction sur le nouveau site de l'Université de Kara. À ce niveau-là, devoir de mémoire, Uriel, il faut penser à un certain Kondi Charles Madjom Agba,
oui,
qui était le ministre de l'Enseignement supérieur et qui avait courageusement fait démarrer l'Université de Kara en 2003, dans les locaux de l'ENI.
Oui, actuellement,
l'Université de Kara, dont tu es un produit, toi-même, Kakwala.
Entièrement un produit de l'Université de Kara. Là, je salue vraiment, avant le ministre Charles Kondi Agba, je pense que c'était une volonté du président Yadema aussi.
Oui. L'orientation a été donnée par le chef de l'État, Feu Nyasingbe Yadema, mais c'est Kondi Charles Madjom Agba, ministre à l'époque, qui avait...
Je l'ai toujours dit, si l'Université de Kara n'avait pas vu le jour, aujourd'hui il y a plusieurs personnes, dont moi, qui ne seraient pas à Lomé. Parce que je n'étais pas en mesure de continuer mes études à Lomé. Ça, il faut
après,
après le bac, il faut qu'on se dise la vérité. Grâce à cette université, nous sommes nombreux à avoir continué nos études. Et aujourd'hui, nous pouvons parler avec vous. Bon, vous pouvez nous envoyer là où vous voulez, on ira. Vous voyez, ça c'était une parenthèse. L'Université de Kara, si le président de la République va poser la première pierre, je pense que c'est du côté de Pia. Parce que l'université, la grande partie, est toujours logée dans les structures de l'ENI,
à Kara Sud.
Mais il y a déjà la présidence même qui est construite au niveau de Pia là-bas. Je pense que c'est à ce niveau qu'il y a vraiment l'espace pour construire l'université. Ça, c'est une bonne chose et on souhaite que cette université la prenne corps. Dans une entité homogène. Par rapport aux autres inaugurations, peut-être que
il y aura également le nouveau marché moderne de Kara
que j'ai eu l'honneur de visiter quand on était monté la dernière fois. J'avoue que vraiment ce marché a été bien construit. Il a été construit. Les artères.
Attendons que le temps l'éprouve.
Bon, je ne peux pas anticiper. Je ne suis pas ingénieur. Pour l'instant, ce que j'ai vu quand même, je trouve que c'est bien, très bien clôturé. Les artères bitumées. Non, j'ai trouvé que c'est un bon marché. Mais avec le temps, s'il y a des fissures, les ingénieurs pourront apprécier. Il y a aussi l'IFAD de Parcoissi, qui sera inauguré. Je trouve que c'est dans le contexte de l'agriculture que les gens en prennent soin, que les élèves aillent fréquenter, qu'ils sortent bien former et nous fournir de la viande parce que c'est l'élevage à Barkwassé.
Merci. Pour revenir à l'université de Kara, Harim Yaou, je me rappelle qu'il y a quelques années, le président du CONAP a fait délocaliser le club La Presse à l'université de Kara. C'était à l'occasion des journées portes ouvertes sur la presse et la communication. Oui. J'ai le privilège d'avoir le président du CONAP à mes côtés. C'est juste un rappel d'un souvenir.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est de bonne guerre qu'on pense à revoir comment rendre plus jolie, plus accessible cette université. Parce que lorsque nous y étions, j'ai vu un cachet spécial qui permet, comme Uriel vient de le dire, que n'eût été l'existence de cette université, il y aura beaucoup comme Uriel qui ne devraient pas pouvoir venir à Lomé. Et c'est ce que Feuillat Dema disait. Je me rappelle, le jour qu'il devrait prendre l'engagement de le faire, c'était officiellement qu'il a dit qu'il sait que beaucoup de gens peinent pour allier Lomé, pour chercher d'abord où dormir, pour trouver des familles d'accueil et que c'était de trop ici. Même avec l'université de Kara, moi je voudrais dire qu'il faut encore une troisième université pour le Togo. Parce que Lomé et Kara, c'est de trop. La région des plateaux est là, la région centrale est là, et la région des savants, je n'en sais pas trop. Je sais que le ministre de l'Enseignement supérieur et tout le gouvernement seraient en train de voir comment faire pour qu'on désengorge un peu les deux universités-là, qui ont déjà trop d'étudiants.
Pour un enseignement de qualité, surtout.
Oui, surtout, oui. Parce que les enfants, c'est de trop. À Lomé, ici, malgré qu'il y a Kara, c'est trop. Kara également, c'est trop. Il faut penser à trouver quand même où encore nous installer une troisième université officielle pour que nos enfants soient un peu plus à l'aise.
Ça, c'est sur la question justement. Pas seulement une troisième université. Je pense qu'au temps du ministre Nico Broum, il y avait eu un projet de mettre dans la plupart des régions des centres universitaires par rapport à plusieurs domaines. Parce que il faut discuter avec les enseignants de l'université de Lomé, les professeurs de l'université de Lomé. Ils vous décriront un peu quelle est la situation de l'enseignement supérieur du Togo actuellement. Parce que la dernière fois, c'est compliqué pour les enseignants de l'université. On parle de Lomé. Tout le ministre Kokoroko à la tête de l'université a fait beaucoup d'efforts en construisant beaucoup d'amphis pour désengorger un peu, mais le problème n'est toujours pas résolu parce qu'il y a un problème d'enseignants, beaucoup de problèmes. Les enseignants auraient souhaité qu'il y ait une université Lomé 1 ou Lomé 2 ou Lomé 3. Il y a un déjà, une déjà. Si on peut avoir Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, ça pourrait permettre de résoudre parce que...
Et ça c'est encore Lomé.
Si vous avez en première année de FASEC, par exemple, environ 27 000 étudiants. Vous imaginez 27 000 étudiants à gérer par un seul professeur, par exemple, dans une...
Dans ce cas, il aurait fallu les amener au stade de Kégué.
Ben vous imaginez comment on fait le cours. C'est vrai, on fait les alternances aujourd'hui entre cours en présentiel et cours en ligne. Ça ne résout pas toujours le problème. Mais aujourd'hui, nous sommes à la veille de nos 63 ans d'indépendance. Il faut quand même que dans ce secteur-là de l'enseignement supérieur... Que quelque chose soit fait en dehors de l'université de Lomé, de l'université de Kara. Pourquoi pas, on peut mettre des universités dans chacune des régions.
Voilà.
Sur le projet dont vous parlez justement, concernant les ministres Broum, je pense, c'est un projet que je maîtrise bien. De passage, je salue le ministre Broum parce que en septembre 2018, il m'avait invité personnellement pour couvrir cette activité validée par l'Assemblée nationale. Je pense que ce projet contenait tout. Et il s'était intitulé « La réorientation de l'enseignement supérieur ». Je n'oublie pas. Maintenant, tout ce qui était contenu, je vous assure que si on avait œuvré, on avait pris soin de ce projet-là, aujourd'hui, on n'en serait pas ici. Mm-hmm. Mais après lui, bon, je ne sais pas quand quelqu'un part, il y a continuité ou il n'y a pas eu continuité. Si vous revoyez ce grand projet-là qui a été validé à l'unanimité par l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, on n'entend pas parler, franchement, je ne sais pas où est-ce que c'est.
Oui, après Broum, il y a eu un professeur dont j'oublie le nom. Akpagana.
Non, Akpagana, non.
Non, non, je dis seulement.
Il a été ministre.
Il a été ministre. Juste chronologie.
Après Broum, on va en parler.
Akpagana. Après Broum, il y a eu le ministre Akpagana.
Non, non, non.
Akpagana de Bagana. Maintenant, qui a passé l'enseignement du relais. Donc, ça, c'est à Majesté.
Je m'intéresse beaucoup sur les sujets de l'enseignement.
Alors revenons au Togo indépendant. les inaugurations. Et puis jeudi, ce sera l'apothéose, le défilé militaire, peut-être civil aussi, les réjouissances un peu partout. Il y aura même la finale foot qui va opposer le club ASK de Kara à Koroki de Tchamba.
L'inauguration de l'hôpital.
L'inauguration Docteur Lafia, c'est le titre même de Mega Info. Mm-hmm. Cet hôpital Docteur Lafia, sur lequel on peut écrire des tomes, c'est parti pour c'est parti comme hôpital Saint-Pérégrin. C'est parti pour être bâti, lancé en 18 mois. Et finalement, ça a changé de nom. Ça a changé même de statut. On avait présenté un hôpital public.
De référence.
De référence. Maintenant, ça donne tout l'air d'un hôpital privé. Ouais. Mais finalement, au bout du parcours, l'hôpital Docteur Lafia sera inauguré dans la foulée de la fête de l'indépendance. Un petit mot d'abord, pas Uriel, c'est non. Ton journal qui met ça à la une.
Oui, bon, c'est par rapport, c'est quand j'ai consulté le programme, j'ai vu ça, j'ai dit ouf, et enfin, c'est bien. Quoi qu'on dise, il y aura une particularité dans cet hôpital quand même, parce que j'ai quelques informations en discrétion, il y aura une particularité. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que ça c'est moi? Pourrions-nous traiter aisément là-bas? Sinon, l'inauguration de cet hôpital, quel que soit le changement, les modifications de son statut, disons quand même qu'il prend corps et l'endroit où il est situé, je salue vraiment le travail des ingénieurs qui ont rendu valable cet endroit-là. Et nous prions vivement que les prestataires, les médecins qui y seront, offrent vraiment un service de qualité pour qu'on dise que même si ce qu'on attendait, ce n'est pas ça, au moins il y a une particularité pour le bien de l'humanité.
Eh bien, les polémiques autour de l'hôpital, ça n'en finit pas. D'aucuns même estiment que le site n'est pas adapté pour un tel hôpital. On parle d'un milieu insalubre, d'un milieu impropre à de grandes constructions. Mais comme c'est des grands ingénieurs qui sont sur le terrain, on verra ce qui sera fait et surtout, on aura l'occasion d'apprécier l'hôpital dans 10, dans 20, dans 50 ans. Finalement, il sera inauguré. Voilà ce qu'on peut dire en première partie sur le programme de la fête de l'indépendance. Au fur et à mesure que nous aurons de nouveaux éléments,
on a annoncé un probable passage du chef de l'État devant les députés le mercredi.
Oui, ça fait partie du programme.
Oui, je ne sais pas si ça s'en
En
a
principe,
parlé.
L'adresse du chef de l'État à la nation, c'est la Constitution qui l'a prescrit. Une fois l'an,
le message.
Une fois l'an, le chef de l'État doit adresser un message à la nation.
Ce qu'on dit, c'est pas le discours habituel dont on parle. On parle de discours sur l'état de la nation, c'est carrément autre chose. Il l'a fait une seule fois, de ma mémoire.
Oui.
Les gens ont dit deux fois, les gens ont dit qu'il l'a fait en 2006 et il l'a fait en 2019. Et je ne sais pas s'il le fera en 2023.
Peut-être qu'il le refera cette année.
Oui, j'ai lu quelques informations là-dessus.
Même chez
il le fera le mercredi prochain. Mais ce qu'on va attendre voir.
Mais seulement, l'information n'en est pas sur le communiqué officiel que Paya de Wabukwesi, le ministre d'État, fait circuler.
Non, nous avons le programme. Programme officiel.
Oui, signé par qui?
Signé par le ministre Wabukwesi.
Oui.
Le mercredi 28 avril 2023, 8h30.
Le micro?
Oui. Donc, je disais le mercredi 26 avril 2023, 8h30, discours de son Excellence Monsieur le Président de la République sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale.
Ok. Donc, voilà, c'est au programme officiel.
Oui, c'est au programme officiel.
Et signé par le Paya de Wabukwesi.
Tout à fait.
Très bien. Oui, Ari Miaou?
Non, bon, tout ce que nous avons dans le programme, c'est bien beau. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons de ces choses. Et puis, moi, j'ai quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je voudrais féliciter le président pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Mais entre-temps, notamment en 2006, j'ai remarqué quelque chose que le chef de l'État a démarré par rapport justement à cette fête et qui finalement s'est bloqué, rien n'a plus été fait, alors que c'était vraiment une touche positive. le fait de délocaliser la fête au niveau de la savane, notamment à Dapaon, ils avaient fait ça.
C'était
à l'occasion.
2007.
2007, voilà. 2007. À l'occasion, ils ont construit des édifices, l'hôpital, ils ont aménagé beaucoup de choses, ils ont lancé carrément le développement de Dapaon, et finalement, nous avions tous cru que ça devait être une expérience, que le chef de l'État devrait continuer, mais je ne sais pas si c'est des gens qui ont découragé, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher, mais franchement, c'était l'occasion pour le chef de l'État de créer le développement de certaines de nos villes, parce que quand on choisit une ville, on pouvait faire ça au tirage au sort. Ça devait être fait pour que la ville qu'on a tirée soit celle qui va accueillir les festivités du 27 avril. Ce serait l'occasion de développer, parce que nous avons plusieurs préfectures. Quand on va dire qu'on a choisi de soi-même, les gens vont être frustrés. Ils vont dire pourquoi est-ce qu'on a pris ici au détriment de ce coin. Aujourd'hui, le chef de l'État et le gouvernement délocalisent les conseils. Il y avait des gens qui avaient aussi dit « Ah, pourquoi pas chez nous ?» Mais pour l'indépendance, on aurait pu continuer cette délocalisation en passant peut-être par des tirages au sort pour que certaines villes puissent quand même changer. Si dans une région, on développe par exemple Dapaon, c'est pratiquement toutes les autres préfectures qui en bénéficient. Si on développe dans la région des plateaux, une ville, une préfecture qui a été tirée au sort, je crois que ce qu'on implante là-bas, si c'est des hôpitaux, si c'est quoi que ce soit, c'est toute la région qui en profite. Autrement, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrivé. Moi, c'est moi. Ce que je dis, c'est ce que je pensais. Je trouvais ça très bien, puisque j'avais entendu dire autant de oufouettes que c'est ce qu'ils faisaient. Et je crois
qu'en
Côte d'Ivoire, on délocalisait tout le temps les célébrations des fêtes d'indépendance.
Merci pour ce plaidoyer.
Voilà. Oui, c'est un plaidoyer. Je précise que je faisais partie, ou bien peut-être discrètement, de ceux qui n'étaient pas d'accord sur ces principes-là. Vous voyez, en réalité, il faut être original. Il faut être original. Le Togo, c'est le Togo. Vous voyez, quand on déplace un simple conseil de ministre de Lomé à Kara ou bien à Dapaon, même à Kouvé, vous ne pouvez pas imaginer les dépenses. Si on est honnête dans la gestion du pays, ces frais d'organisation du 27 avril à un endroit autre que Lomé, ça peut servir à beaucoup de choses. C'est beaucoup d'argent.
Justement,
si on vous dit
justement
ce que ça
coûte, à matérialiser le passage dans la région par des infrastructures
on n'a pas besoin de déplacer. On n'a pas besoin de déplacer la célébration de l'indépendance pour matérialiser. L'État peut décider cette année, nous voulons, au nom de l'indépendance, faire ceci à Kouvé, à Eyatro, je ne sais pas où, et il le fera. Maintenant, ce déplacement, mes chers amis, demandez un peu, on va vous dire le coût. Vous allez dire autre chose.
Les deux idées ne sont pas si contradictoires en tant que telles. Tout part de la volonté et de là où nous voulons justement amener notre pays. Vous avez vu, on était tous à Accra la dernière fois. Moi, je suis retourné à Accra, ça fait 10 ans. Que j'y suis retourné la dernière fois. Je l'avais abandonné momentanément. La première image que j'avais de Kara quand je suis allé la dernière fois, j'étais surpris. Et quand je me suis renseigné un peu, il a eu un projet qui s'appelle le projet PIDU, qui a permis de construire beaucoup de routes à Kara. Vous avez vu, pour ceux qui se sont rendus à Palimé, à Palimé dernièrement, vous avez vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont eu lieu à Palimé, avec beaucoup de routes un peu partout, beaucoup de travaux de drainage et tout ça, qui a permis de donner une autre image à la ville de Palimé, par exemple. Si derrière, cette volonté se matérialise, on veut, en dehors des projets, l'État veut même investir dans chacune des régions, donner une autre image à nos villes un peu partout, je pense qu'en même temps qu'on fait les grands projets, si on fait un focus une année sur une région, on veut construire beaucoup de choses, ça peut être également un objectif et qu'on se projette pour atteindre. Donc actuellement, on n'a pas d'objectif, on ne fait pas. Et à fin de compte, on finit la célébration de la fête de l'indépendance. Il n'y a rien de matérialisable, il n'y a rien qu'on retient en réalité de la célébration de la fête. Par contre, depuis 2007, là, on a vu quand même qu'il y a un grand hôtel à Dapaon, qui est l'hôtel Dapaon, tout le monde connaît, ça reste le plus grand hôtel de la ville aujourd'hui. Si on peut multiplier cet exemple un peu partout, en attendant d'avoir quelque chose d'original.
Non, je voudrais dire justement que je ne suis pas aussi d'accord avec Iriel.
C'est votre droit.
Les gens vont venir.
C'est votre droit de ne pas.
Oui, laisse-moi dire. Par exemple, si on prend une région quelconque, tout ce qu'on va vivre le jeudi là, les gens vont vivre ça en live, en direct, dans cette région. Le défilé militaire, il y a des régions où les gens, c'est à la télé, ils voient tout ça là.
Moi-même, c'est à la télé.
Ah oui, donc c'est pour te dire que les gens ont de l'enthousiasme à vivre certaines choses que nous croyons minimes. Et je vous dis que quand on a fait les faux pas, pourquoi on a fait ça par région? Et les gens qui sont venus là, ils n'étaient pas fiers d'y être? Moi, je crois que si on mettait un cachet, le chef de l'État avait bien trouvé. Je crois que peut-être les gens ont découragé le projet. Sinon, ce projet devrait permettre d'aménager nos régions en termes d'infrastructures.
Je parle des régions. Il nous reste 4 minutes. Je voudrais quand même qu'on aborde le recensement électoral qui va démarrer le samedi prochain, le 29 avril. Parce que nous savons que notre pays attend 2 grandes élections cette année. Les élections régionales et les législatives. Donc, en prélude, le recensement est annoncé pour démarrer le 29 avril. Ce que nous apprenons, c'est que l'opération va se faire par zone, délimitée avec des calendriers précis. Mais le constat qui est fait, c'est que par communiqué, par manifestation, comme l'AMC hier à Kodiendji, presque tous les partis politiques appellent les populations, leurs sympathisants, à aller se faire recenser. Didier, une minute à chacun.
Oui, c'est justement, on dit, j'ai entendu un grand militaire, un colonel de l'armée togolaise, qui a une fois dit, lors d'une cérémonie, que seuls les imbéciles ne changent pas. Si on n'a pas pu tirer les leçons de l'expérience, la malheureuse expérience de 2002 avec le boycott, et on a fait le remake en 2018, je pense que toute cette fois, les partis politiques d'opposition et toutes les organisations politiques et groupes de pression ont compris que, en démocratie, on ne boycotte pas véritablement les élections. Ils ont compris. Et cette fois, ça a été vraiment une surprise de voir chaque parti politique ou les partis politiques qui rivalisent d'ardeur par communiqué, par initiative, pour mobiliser la population, aller se faire recenser pour avoir la carte d'électeur, justement pour passer dans l'isoloir le jour du vote pour s'exprimer. En dehors même de cela, ça a été une bêtise que de demander aux Togolais de ne pas aller se faire recenser, parce que nous savons que officiellement, moins de 2 millions de Togolais ont de la nationalité. Enfin, c'est vrai, moins de 2 millions sur les 8 millions que nous sommes maintenant sont vraiment Togolais, parce que si vous n'avez pas la nationalité, vous n'êtes pas Togolais. Donc, si on n'a pas de nationalité, ça veut dire qu'on n'a pas de carte nationale d'identité, on n'a pas les autres documents. Donc, la carte d'électeur sert de document officiel pour la plupart des Togolais aujourd'hui, et l'expérience, le boycott auquel on avait appelé des gens en 2018 a fait que la plupart des gens n'avaient plus de pièces. C'était des hommes et femmes sans pièces sur une longue durée. Cette fois, les gens vont...
Autrement dit, les gens ont appris de leurs histoires. Uriel et Nyang, les partis individuellement ou bien en groupement, et surtout, ils mettent la technologie à profit pour appeler la population, leurs sympathisants, leurs militants, à aller se faire recenser, alors que l'opération même n'a pas encore concrètement commencé. Là, c'est une bonne chose.
Non, ils ont tiré la leçon de ce qui s'est passé en 2018 principalement. Même si vous voulez boycotter une élection, faites recenser vos électeurs, parce qu'on ne sait jamais. Si vous revenez à une autre décision et que vos électeurs, vos militants n'étaient pas recensés, ça ne servira à rien. Je pense vraiment que c'était une erreur grave, gravissime même. Donc, aucun parti politique, aucun militant ne permettra plus jamais de manquer à ces bonnes opportunités parce qu'il ne sait pas faire recenser. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise d'aller me faire recenser avant que j'aille. Je sais que c'est un acte civique et ça peut me rattraper. Personne ne m'obligera, mais j'irai le faire pour que les choses ne me rattrapent pas un jour. Je vais me faire recenser, je garde ma carte et je voterai pour qui je veux.
Voilà. Eh bien, en temps opportun, nous reviendrons sur le calendrier zone par zone et dans notre contrat de travail, de sensibilisation, de formation à la citoyenneté et au civisme, nous le ferons. Mais avant même que le gouvernement ne le fasse officiellement, les partis dits de l'opposition prennent de l'avance.
Oui, c'est pour vraiment rendre véridique ou bien la pratique, l'adage qui dit les conséquences corrige mieux que le conseil. Vous savez, le Togo a son histoire. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du Togo, suivez mon regard, il fut une époque où on a toiletté la constitution. Et pour la toiletter, il y avait des gens qui avaient également choisi de boycotter.
Ouais. Il s'était agi des législatives anticipées d'octobre 2002, voilà, auxquelles l'opposition avait boycotté. Et par la suite, le pouvoir de Feu Nyasimbe-Yadema s'est servi de l'Assemblée ici de cette élection pour tripatouiller, toiletter, c'est ouais, selon la Constitution.
Feu Nyasimbe avait dit que la Constitution avait été toilettée. Et donc, toutes ces série d'histoires devrait servir de modèle et d'exemple aux gens. En 2018, j'ai été surpris, beaucoup ont été surpris de voir que les gens avaient choisi encore d'être à l'écart de ce qui se fait. Et des gens ont cru qu'ils devraient taxer l'Assemblée de d'Assemblée Mouton, mais c'est sous cette Assemblée que beaucoup de choses qui lancent le Togo sont en train d'être faites. Cette Assemblée que nous avons aujourd'hui fait beaucoup et continue de faire beaucoup pour le Togo. Et je crois que les gens ont tiré vraiment les leçons de ces conséquences-là. C'est pour ça que, avant même que le gouvernement lui-même donne le temps, vous avez des associations par-ci qui se forment, les partis de l'opposition, d'aucuns même, ont été créés une dynamique parce qu'on leur a tenté de les étouffer, de leur refuser de participer à ces élections-là. Et chacun est en train d'appeler les Togolais à se faire recenser. Ça veut dire que la mayonnaise a pris. Et les associations parmi lesquelles il y a Pierre, Fondation Pierre Angulaire, que notre confrère Cyril Sablassou dirige, elle aussi, elle s'est lancée dans la danse, un peu partout en mobilisant les gens et appeler les citoyens à faire le nécessaire pour avoir leur
cas. Merci. Démarrage effectif le 29 avril prochain. Nous y reviendrons. Pour le moment, nous marquons une pause. Le temps que Michel et Gérald adressent un clin d'œil de Canal FM aux partenaires et que vous apprêtez à composer le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75. 93.5. Canal FM. Eh bien, la parole est présente à vous, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, pour réagir sur l'un ou l'autre sujet que nous avons développé. Bonjour, ami.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Et je me félicite de l'action du chef de l'État, Kara, l'autre fois. Mm-hmm. Il a accompagné le déplacement avec des actions. Et seulement, au finish, il faut que ces machines soient bien gérées. Les ayants droit. Il faut que...
Ah bon? Sylvain parti?
Allô?
Ah, oui, allô?
Oui, et puis ça, vous parlez de réhabilitation. L'immeuble de l'UNATO, là, ça, quand vous arrivez
non,
là-bas...
Non, Sylvain Agbaï, situons les débats. Nous parlons du nouveau palais de la présidence de la République. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui.
Donc, quand vous parlez des bâtiments à réhabiliter...
Non, c'est pas tous les bâtiments du Togo, mais nous parlons du nouveau palais de la présidence de la République qui a été inauguré en 2006 et qui déjà a besoin d'être réhabilité en 2023. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, allô, bonjour, Sass.
Oui, c'est monsieur.
C'est Lazare Adjara Maïto de Dulassamé.
Eh bien, nous vous écoutons.
Bon retour à vous. Hein.
Merci beaucoup.
C'est un billet constaté. Mm-hmm. Nous sommes toujours dans le sillage de l'indépendance, là.
Oui.
Au niveau du rond-point de commissariat central, mm-hmm, Carrefour, Fontaine Lumineuse, là.
Oui.
On a mis les photos des anciens président est le nouveau. Mm-hmm. Mais le constat que j'ai fait, c'est qu'ils n'ont pas mis photo de M. Nicolas Guinilski dedans. Je me demande pourquoi. Et Abad Bonfou.
Ok, bon, nous, on n'est pas encore passé par là. Nous irons regarder pour voir les portraits de quel président on a mis et celui qu'on aurait éventuellement omis.
Ok, merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci. Le suivant, bonjour. Ah, il est parti. Ok, il va revenir. Le temps quand même que nous partageons avec vous les quelques articles des journaux parus aujourd'hui. Ok, un auditeur qui s'annonce, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Bonjour, Plateau.
Monsieur Gado.
Oui, vous avez parlé de l'opposition. Elle s'est réveillée. Vous savez, Mayo Tete avait dit aux États-Unis que le jour où la Chine va se réveiller, le monde va trembler. Effectivement, aujourd'hui, les États-Unis tremblent devant la Chine. Bon, les positions là, est-ce qu'elle peut faire trembler quelqu'un dans ce pays? Parce qu'elle a trop dormi. Mais j'espère quand même. Merci, bonne journée.
Merci. Nous rappelons juste que, avant le démarrage du recensement électoral, beaucoup de partis et de personnalités politiques appellent les populations à aller se faire recenser. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui. C'est ici. Ok. Nous vous écoutons.
Si on comprend bien là, vous là-bas, vous faites les avocats du diable ou quoi? Vu que vous vous tutoyez au gouvernement, qui se sucre, c'est à eux de venir nous parler. Hein? Vos collègues vont jusqu'à attaquer les auditeurs qui appellent et qui ne sont pas contents de la gouvernance. Non, hein, ça ne peut pas aller comme ça. Nous sommes dans une république et on est libre. On est libre de dire nos avis.
Et, voilà. Si vous êtes libre, vous et nous aussi, sauf qu'il vous arrive souvent de confondre les journalistes aux gouvernants.
Oui, ça, mais oui, ça, vous ne les appelez pas.
Nous avons beaucoup d'élégance. Nous avons beaucoup d'élégance avec vous, les auditeurs. Mais nous sommes journalistes, ce n'est pas nous le gouvernement.
Quand on appelle pour dire qu'on pense que vos collègues là ne nous attaquent pas, pardon. Ah. Et puis vous avez parlé de la présidence,
oui.
De la nouvelle présidente, tout ça là. Et vous avez fait tout à l'heure la publicité de Diamant. Est-ce que c'est le moment? C'est le moment.
Oui. S'il vous plaît, et si, bon, ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit.
Oui.
Nous avons parlé du nouveau palais de la présidence de la République. Nous avons relevé que le palais a été inauguré en 2006 et déjà en 2023, il y a besoin de réhabilitation et d'extension. C'est ce que nous avons dit.
Ah d'accord, moi je pensais qu'on est en train d'en construire une autre. Ah oui, c'est parce que c'est mal fait, hein, si c'est les Chinois, vous voyez bien.
S'il vous plaît, je pense que la moindre des choses... La moindre des choses ici, c'est que vous nous écoutiez avant d'intervenir.
Avec une oreille, voilà, c'est ça.
Sinon, voilà, pour le bonheur, le bonheur ne va donner à quoi.
Oui, comment se fait-il ça? Quand on achète le gaz si cher, c'est-à-dire le gaz de 1500, là, on le vend à 5000. Et celui de, je sais pas, 11 000, on peut l'acheter à 4 000. Hein.
Et si, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et si, donnez-vous la peine de nous suivre au jour le jour avant d'entrer en ligne. Sinon, on aura l'impression que vous bottez hors sujet. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, Sass, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
Et les tracas de Cara, tout ça, là, j'espère que vous êtes bien arrivé.
Cara, c'est seulement 400 quelque chose kilomètres.
Ah, oh, mais bon, c'est que le constat que moi j'ai fait que, en principe, Côte d'Ivoire devait aller dans les autres régions aussi. Si vous prenez Carasol, parce que ça laisse un peu désirer. Bon, ça. Bon,
à ce niveau-là, une précision. Nous avions dit, à chaque fois que nous délocalisons, nous remercions la structure qui nous prend en charge.
Ah bon?
C'est la société BKG Distribution qui nous a fait délocaliser à Cara. Si vous voulez nous faire délocaliser chez vous à la maison ou bien dans votre service, un peu partout, nous sommes preneurs, M. Senghor.
Ok, je crois que, bon, ça l'a plu de prendre Cara, c'est bon chez moi, c'est bon. Bon, ça, vous savez.
Oui.
Je voudrais ajouter quelque chose à ce que Mme Sia a dit.
Oui.
Vous savez, aujourd'hui, toi de presse, si toi de presse plutôt, est-ce qu'elle est aujourd'hui? C'est grâce aux auditeurs. Vous-même, vous le savez, non? C'est nous, grâce à nous. Qui est devenu ce que votre radio est aujourd'hui. Donc, bon, je crois que nous, les auditeurs, nous qui ajoutons un plus là, ça que c'est une bonne chose. En principe, le chef de l'État, le gouvernement, devait être content. Quand vous gérez un pays, aujourd'hui, Fonia Singh a des conseillers. Pourquoi il a des conseillers? Pourquoi lui-même ne peut pas gouverner et il nomme les conseillers? C'est que, étant un homme, on ne finit jamais de faire quoi? Comment je vais dire, mes frères amis? La sagesse là. C'est-à-dire que tous les jours, il faut avoir des gens pour pouvoir vous conseiller à aller. C'est comme ça l'a dit. J'interviens ici en tant qu'un évangéliste, un homme de Dieu. Aucun Togolais n'est ennemi à son prochain. Mais depuis là, on constate qu'on parle, mais rien ne change. C'est comme les gens font semblant de dormir. Vous savez, ça, quand vous faites semblant de dormir, vous voyez, on peut te réveiller du matin au soir. Mais je crois
merci
que les intervenants amènent même plus.
Mais donc, s'il vous plaît, nous moi, je ne vois sommes que des journalistes, moi, nous ne sommes pas des émissaires du gouvernement, s'il vous plaît. Si vous avez des critiques à adresser au gouvernement, vous connaissez leur ministre, vous connaissez leur ministère, vous connaissez leur fief. Au Club de la Presse, nous choisissons des sujets que nous discutons au jour le jour. Nous voudrions que le débat soit critique et large, mais s'il vous plaît, les journalistes et invités au Club de la Presse ne sont pas les émissaires du gouvernement.
Le oui, s'il vous plaît, bonjour. Deux secondes, hein, s'il
oui.
S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu une fois la chance de visiter la présidence du Togo?
Pardon?
Pour savoir si c'est en ruine en ce moment, s'il y a des recherches à faire. Est-ce qu'on t'a permis une fois, une seule fois, d'accéder à cette présidence-là?
Mais et dis-moi, si, et si
parce vous... qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'on réhabilite.
Et ça, si beaucoup vous d'argent. Êtes citoyenne du d'argent. Togo, vous avez le droit d'aller faire une visite au palais de la présidence. Si vous y allez, qu'on vous le refuse, on en parlerait.
Bien entrer. J'irai d'ici demain.
Ok. Et je vous souhaite du courage et bonne chance.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour mon patron.
Oui, Patrick.
Monsieur Sass.
Oui.
Je suis un peu énervé ce matin parce que je constate que, en tout cas, c'est votre métier, comme on le dit souvent, c'est des sacerdoces, et que nous qui sommes auditeurs, je comprends pas, on appelle pour comprendre l'actualité ou bien on appelle pour critiquer ceux qui nous informent. Je ne comprends pas.
Non, Patrick, s'il vous plaît, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Réagissez sur les sujets que nous avons discutés.
Je vais réagir, mais okay. Ça, monsieur,
non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Patrick, Patrick, si nous ouvrons le micro, c'est que vous réagissiez sur les sujets que nous avons développés.
Bon, pour être bref, vous savez, vous venez d'évoquer un problème au niveau du palais des congrès concernant les statuts, tout ça. En plus ça, moi, je voulais revenir.
Mm-hmm.
C'est une très bonne remarque. Mais votre collègue disait que si c'est que vous étiez là au-dessus de 9h11, il n'y avait pas, que c'est dans l'après-midi.
On a balayé après.
Après.
Oui.
Mais nous qui sommes allés là-bas, pourquoi nous ne pouvons pas faire un effort? Même, c'est vrai, on peut voir l'eau. Il n'y a pas des petits, ça, on peut mettre les sachets pour que ça soit joli. Mais nous ne sommes pas les seuls à aller là-bas. Il y avait des étrangers aussi.
Mm-hmm.
Monsieur Sass, actuellement, je peux vous dire, hein, quand vous allez au niveau de l'université, comme vous avez parlé aussi des universitaires, à l'université de Lomé ici, même au CHU, pour prendre un médicament avec de l'eau, vous êtes obligé de prendre l'eau à 500 francs. Vous savez pourquoi?
Non.
C'est interdit. On ne va même pas plus attendre au niveau du CHU.
Ah, les eaux en sachet sont interdites dans les environs de l'université de Lomé du CHU.
Simple à Kassa qu'on va pour avec ce que dans ça. Si tu n'as pas une gobelet ou bien une bouteille, on ne te vend pas.
Mm-hmm.
Et c'est propre. Allez, faites un tour au niveau du CHU. Rendez-vous à un malade. C'est ce que moi j'ai fait, j'ai constaté. Même pour les étudiants, pareil. C'est ça quoi, il faut une volonté pour que ça puisse aller.
Merci une volonté, une discipline.
Voilà, c'est ça.
Merci, que la volonté, la discipline commence au sommet de l'État et nous allons relayer par la suite. Le suivant, bonjour. Allô? Il y avait un auditeur en ligne.
Oui,
bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est M. Kossi de Sabado.
Kossi de Sabado, nous vous écoutons.
Oui. Je veux parler aussi des sachets que vous avez trouvé au palais des congrès de Kara.
Mais qu'on trouve un peu partout au Togo, hein, c'est pas seulement à Kara.
Je sais, mais vous êtes revenu. Mm-hmm. Vous êtes allé à Kara, vous êtes revenu, vous en avez parlé.
Oui.
C'est que ça ne vous a pas fait du bien. Je peux vous laisser parler de ça. Est-ce que dans un palais comme tel, on doit laisser les sachets tels que vous les avez vus là? Est-ce qu'on doit laisser les sachets comme ça? C'est ma question. Merci.
Non, s'il vous plaît, l'ami Kossi, ce que nous avons vu, c'est sur l'esplanade. Hein? C'est sur l'esplanade du palais des congrès. Je ne sais pas si vous connaissez les lieux. C'est sur l'esplanade.
Vous avez voyagé en tout temps. Est-ce que vous avez trouvé les sachets comme ça dans un palais? Est-ce que c'est derrière vous qu'on va ramasser?
Merci beaucoup. Le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau.
Bonjour, Papa Sibiti.
Tout le monde, je voudrais inviter les Togolais à être calmes avant de prendre la parole. Vous savez, la nervosité ne va pas résoudre nos problèmes ou vos problèmes. Abandonnez, cessez d'attaquer. Tout ira bien d'un jour à l'autre, comme Voltaire l'a dit. Doucement, doucement. Mais ça, si je commets des erreurs, prenez le soin de dire, papa, il ne faut pas nous endormir. Je n'endors pas. Comme la religion, on l'a toujours dit, est l'opium du peuple. Je ne viens pas pour endormir. Ce que vous voulez dire, calmement, vous réussirez mieux que dans la nervosité. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Soyez rassurés, hein, nous sommes à l'école de la critique. Hein, nous sommes au cœur de ça tous les jours. Hein, tout ce que nous souhaitons, c'est que on ne se trompe pas d'adversaire. Nous ne sommes même pas d'adversaire. Nous sommes des journalistes. Nous vous informons. Si vous avez des choses à reprocher au ministre, mais nous connaissons tous le bureau. Nous connaissons les sièges de leur parti. Nous connaissons l'Assemblée nationale. Hein, des fois, nous avons l'impression que quand quelqu'un veut lancer une flèche à quelqu'un, ce sont des journalistes. Mais ça nous forme au jour le jour. Hein, nous sommes toujours plus élégants dans la critique. Nous allons revenir pour notre traditionnel tour de table de fin d'émission. Uriel Kakbala Enyang.
Bien. Par rapport aux auditeurs, je pense que quand chacun se réveille, il faut comprendre l'état d'esprit aussi. On passe parce que nous connaissons notre rôle et on le fera toujours aussi bien. Et maintenant, sur les sujets qu'on a développés, il faut dire que la question de l'agriculture reste toujours préoccupante. Nous allons souhaiter que chaque autorité, chaque leader concerné par le projet qui vient d'être bouclé, pas bouclé, mais on a fait une tournée dans les 5 régions économiques, que chacun prenne sur lui la charge de jouer son rôle afin que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on voit concrètement le changement. Parce que on a toujours dit l'agriculture comme le premier secteur de l'économie. Mais bon, les années passent, on n'y est pas encore arrivé. Ne serait-ce que l'autosuffisance alimentaire en attendant la transformation et la commercialisation. Je pense que c'est très important. Il faudrait que tout le monde s'y mette, tout le monde travaille. Voilà.
Merci beaucoup. Didier Komi, Asoba.
Oui, tout ce que nous disons, c'est on a évoqué beaucoup de sujets. Si on doit mettre des précisions, c'est peut-être sur la question de l'enseignement supérieur. Très cher à mon aîné Uriel, nous, comme ça, nous sommes des produits de l'école publique togolaise. Hein. Nous avons fait école primaire publique Kouvé-Boli, B, carrément, jusqu'à l'université de Lomé, finalement. On sait que si on veut véritablement impulser une nouvelle dynamique à notre pays, après ces 63 ans, il va falloir regarder également du côté de l'enseignement supérieur et également le côté des infrastructures. Vous voyez, on en a débattu dans ce studio la dernière fois quand beaucoup de bassins de rétention d'eau ont refusé donc de nous aider. On a commencé par enregistrer des inondations déjà un peu partout. La question des infrastructures est une question très nécessaire et Rémi Yao continue de préciser qu'on a commencé quelque chose en 2007. Ça, ne négligeons pas. Nous n'avons pas beaucoup de régions. Nous n'en avons que théoriquement 5, mais on peut parler de 6 avec le Grand Lomé. Si on veut vraiment impulser le développement de notre pays, pensons à copier quand même de bons exemples sur les autres pour évoluer. Il y a la question de l'agriculture, il y a la question des enseignements supérieurs, mais finalement, tout est priorité, mais on peut quand même essayer d'agir au point par point sur quelques secteurs pour permettre au Togo de connaître un nouveau visage dans 5, dans 10 ans, comme si on le veut vraiment. Donc, c'est notre pays, c'est le pays de tous. Vous avez vu, tout le monde a appelé, c'est pour préciser sur un certain nombre de sujets très chers à eux. Et donc, oui, si nos gouvernants nous écoutent, si les conseillers du chef de l'État nous écoutent, reprenons les exemples qui ont bien marché. et essayons de continuer de faire ce qui ce qui peut ce qu'on peut améliorer.
Arimiaou, Tchanyaou.
Oui, bon, je voudrais souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Togolais qui sont sur le territoire et partout dans le monde. Et je voudrais également féliciter le groupe Bukongu qui est en train de se diversifier un peu partout. Vous le connaissez dans les BTP, vous le connaissez dans les banques, vous le connaissez dans l'agriculture, vous le connaissez dans l'élevage aujourd'hui. On le connaît également dans l'aviation avec le groupe Lisa Transport et qui va effectivement prendre être lancé dans cette semaine. Et donc, Boumafa a de cette flotte aérienne qui va commencer par aussi desservir nos régions et lier l'Afrique un peu avec l'extérieur. Et donc, ça va se faire cette semaine. Donc, félicitations. Et pour revenir sur notre pays, je voudrais encore réitérer ce vœu pour moi, Tchanyaou. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Togolais qui sont avec moi sur cette visée pour dire que ce que le chef de l'État avait commencé en 2007, pour moi, c'était très salutaire. C'était un moyen pour nous développer nos régions. C'est lui-même qui avait eu l'idée et qui, malheureusement, heureusement, se fait être des idées que d'autres aussi faisaient. Mais au Togo, c'est lui le premier à vouloir l'expérimenter. Il a démarré ça dans les savanes à la faveur de ce qui s'était fait à la savane. Il y a beaucoup de choses qui ont été lancées dans cette région stratégique de notre pays. Et je pense et crois fermement que si le président le veut et qu'il revoit et que les années à venir, on choisisse une autre région où on célèbre notre fête d'indépendance, ça va permettre de développer, comme déjà aujourd'hui avec l'Infopat, on a lancé et que nous-mêmes nous sommes en train de sentir qu'il y a des choses, des idées positives, des lancers positifs qui vont être faits pour développer notre pays. L'idéal pour nous, c'est de voir le Togo beau et émerger.
Et à ce rythme, un jour, la fête de l'indépendance va arriver à Kewa
Mao. Ce serait très bien.
Les petits Tchanyaou seront contents de voir les symboles de la République.
Il y a le camp à Kewa.
La semaine est lancée. Pourquoi ça n'arriverait pas chez nous
À Kouvé.
À Kouvé. Mais il faut que ça vienne là-bas quand même.
Merci beaucoup.
Moi, je n'en veux pas.
Eh bien, la semaine est lancée. Mais comme nous avons beaucoup parlé des bassins d'orage et d'inondation, rappelez que nous sommes au début de la saison des pluies et quand on suit les prévisions de la météo, il se peut que nous ayons encore beaucoup d'eau. Alors ceux qui sont dans les abords immédiats des bassins d'orage, ceux qui se savent habiter dans les bas-fonds, il y a des mesures de prudence et de vigilance. Cette mesure également s'adresse aux maires, aux 13 communes du Grand Lomé, Golfe et Agouenivé compris. Chaque mairie devrait positionner les équipes et les équipements, les moyens, au cas où. Et puis au sommet, il y a l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile. Je sais que le général Yark et son équipe ont déjà anticipé beaucoup de choses. Eh bien, il faut qu'on mette tout ça en alerte comme ça. S'il y a débordement, on pourra promptement se porter au secours de nos compatriotes qui seraient sinistrés. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.